Je vous invite à la prière. Seigneur, beaucoup de choses sont dites ce matin. Tu nous as parlé, même à travers les regards, tu nous as parlé. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Les gestes et les regards expriment ce que nous avons sur le cœur. Et je t'en remercie. Merci pour les chants, les prières et les partages. Merci pour cette nourriture que tu nous as déjà donnée. Et merci pour ces paroles qui seront partagées encore modestement, qui viennent d'un être faillible, faible, avec ses erreurs. Mais Seigneur, toi, tu es plus fort. Toi, tu nettoies tout, tu corriges tout. C'est pourquoi je te prie de tout nettoyer, corriger, et que mes frères et sœurs ne reçoivent que ce qui vient de toi, et balayer tout ce qui vient de l'homme. Merci encore pour cette jeunesse. Merci pour cette jeunesse qui se lève petit à petit pour rappeler au monde qu'il y a quelque chose qui manque dans ce monde. Cette jeunesse se lève et dit au monde, vous êtes dans l'obscurité, dans l'ignorance. Nous les jeunes, nous vous parlons du Seigneur, car il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, aide-nous à être ces personnes qui écoutent, avoir des oreilles qui entendent. Car si tu nous as envoyé cette jeunesse, c'est peut-être aussi pour parler à ton Église. Merci par avance, car tu es un Dieu merveilleux qui s'occupe de chacun et de chacune, qui nous connaît tous par cœur. Tu peux parler au cœur, soulager, affermir. Que ta volonté se fasse. En ton Saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons notre étude de l'Évangile selon Marc. Donc nous avons pris l'habitude de prendre un livre, aller jusqu'au bout. Et nous arrivons au chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les 6 premiers versets. Je vais vous lire les versets. Évangile de Marc, selon Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Qu'est-ce que c'est paradoxal ? Que de voir qu'on est le jour de Shabbat, le jour du repos, le jour de paix, et les hommes de la loi cherchent à faire tuer quelqu'un. La première remarque, le jour de Shabbat, où il y a cette communion avec Dieu, où le jour de Shabbat, dans la loi, elle dit ne faites rien, c'est ce jour-là qu'ils veulent tuer. Ça montre l'aveuglement des gens de la loi qui essaie d'avoir une main sur la population à travers une religion. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 23, vous verrez le Seigneur ce qu'il a dit sur les pharisiens. Jésus entra de nouveau. Voilà comment ça commence notre chapitre 3. De nouveau. C'est-à-dire qu'il venait avant. Malgré les menaces, il venait. De nouveau, il rentra dans la synagogue. Là où il y a les hommes de la loi, là où les gens obéissaient à la loi de Moïse, priaient Dieu, il entra de nouveau. Il entra de nouveau, malgré la réticence, malgré la menace des religieux. Malgré tout cela, Jésus retourne à la synagogue. Synagogue veut dire maison de l'étude. Il est rentré à la synagogue pour accomplir son œuvre pour laquelle il est venu. Il respectait le Shabbat, le Seigneur. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, tout en confondant les responsables religieux, les maîtres de la loi qui nourrissent et alimentent leur orgueil avec une interprétation humaine erronée. Il maintenait les gens sous la loi pour avoir la main dessus. Et on sait très bien que le Seigneur, ce qu'il a dit sur les pharisiens, au point qu'ils sont devenus aveugles, qui conduisent des aveugles. Par son action, Jésus libère le Shabbat des entraves posées par les docteurs de la loi. Et la dernière fois, nous avons vu que le Shabbat, c'est le jour de la communion, le jour de la libération, le jour de l'amour. Et notre dimanche de la résurrection, c'est notre Shabbat. Nous nous réunissons le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. En arabe et en hébreu, le nom de dimanche est le chiffre 1. C'est que le premier jour de la semaine. Donc nous débutons la semaine le dimanche. Et nous savons que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, le jour de la victoire, le jour de la libération. C'est pour ça que nous nous réunissons le dimanche et nous tenons à être présents ici entre frères et sœurs. C'est notre Shabbat chrétien. C'est le jour de l'abandon de l'homme à Dieu. C'est le jour de paix où se manifeste l'amour divin pour sa création, mais aussi l'amour fraternel au sein de l'Église. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas d'amour horizontal fraternel. Il n'y a pas d'église s'il n'y a pas d'amour vertical. Tout ça ensemble, ça s'appelle l'église. Jésus a donné le véritable sens du Shabbat. Le repos dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne peut que se reposer. Parce que c'est un repos divin. Un repos qui nous amène à louer, adorer et chanter notre Dieu. De toutes tendances confondues, les hommes divisent, mais le Seigneur est un. C'est le jour de paix dans les consciences. Saint Augustin, j'aime bien le citer, Saint Augustin, parce que c'est un maghrébin. Saint Augustin, voilà, tiens, un immigré. Eh oui, puisque c'est un berbère tunisien, il vient de Tunisie. Il a étudié en Algérie, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais c'est un berbère qui est parti, faisant partie du Vatican. Ben, il faut le savoir, je le répète. Saint Augustin est un berbère du 5e siècle par sa mère. Sa mère est berbère. Et c'était une fervente chrétienne. Et ceci avant l'arrivée de l'islam. Par là, je dis que le Maghreb, il y avait la foi chrétienne avant l'arrivée de l'islam. Donc de mère fervente chrétienne, profondément pieuse et bien entendu d'un père païen. Voilà ce qu'il a dit Saint Augustin. Celui qui a la conscience en paix est tranquille. Et cette tranquillité est le Shabbat du cœur. Je trouvais ça beau. Le Shabbat, ce n'est pas un jour. Tous les jours, on peut avoir le Shabbat quand on est en paix avec le Seigneur. Jésus entra de nouveau. C'est un message pour le monde religieux et païen, et pour nous aussi. Parce que Jésus rentre à nouveau chez nous. On dit, chez nous, il parle à nous. Ce matin, il est rentré à nouveau chez nous. Le Seigneur vient et revient malgré la dureté des cœurs. Il tend toujours la main pour faire du bien et inviter les gens à recevoir la bonne nouvelle du salut qui nous fait entrer dans l'éternité. Pas quand on aura quitté ce corps, non. De notre vivant, du moment qu'on reçoit le Seigneur, on a reçu l'éternité. Il suffit de recevoir le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus entra de nouveau. Il me fait penser à la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il soit chrétien ou pas, parce qu'on dit, c'est pour le monde. Non, non. Nous aussi, des fois, on s'égare. Hein? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus entre de nouveau. Il n'y a pas de fatalité. Il n'est jamais trop tard. C'est toujours le temps de Dieu. Qu'on soit jeune ou moins jeune, il est toujours temps d'accueillir le Seigneur et de répondre à son invitation permanente. Il veut faire de nous des brebis, ses disciples. Il nous offre tout simplement sa propre vie. Jésus est venu proclamer l'évangile du salut. C'est la bonne nouvelle. Néanmoins, ses adversaires d'hier et d'aujourd'hui non seulement rejettent cette bonne nouvelle, mais ils cherchent des prétextes pour l'attaquer. Et dans notre cas, pour le tuer, carrément. Curieusement, les ennemis de la bonne nouvelle ne se concentrent pas spécialement et uniquement dans un monde athée ou païen, comme on peut le croire. Il vient surtout du monde religieux. Ceux qui s'appliquent à la loi, à la règle. La religion, avec son légalisme et ses dogmes, nourrit la dureté de notre cœur, l'accuse, au lieu de le libérer. Elle nous maintient dans une relation qui, de cela, est venu mot religion. Relation, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le Créateur et sa création. Et la création doit faire les efforts pour aller vers le Créateur. On oublie que le Créateur est déjà venu à notre rencontre. Il ne nous offre pas une relation. Il nous offre plus que ça, une communion. Et on a parlé ce matin de « en dans ». Pas avec, pas seulement avec. « En dans ». C'est une communion. La religion légaliste empêche l'Esprit Saint d'œuvrer librement en nous. On la maîtrise par des règles et par des traditions. Elle devient un obstacle à la libération de notre cœur et à la réception de la bonne nouvelle. Et le Seigneur, dans Matthieu, chapitre 23, je vous invite à lire, c'est un réquisitoire. Quand on le lit, c'est très difficile pour ceux qui l'écoutent. Je vous montre un seul passage où le Seigneur s'adresse aux scribes et aux pharisiens et il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Gare à nous si nous devenons des scribes et des pharisiens. » Peut-être on montre de doigts les scribes et pharisiens, mais on peut le devenir. Si on instaure une loi, une religion, et on oblige tous les frères et sœurs à s'y soumettre, sans laisser la liberté de l'Esprit-Saint et la conscience vivifiée par l'Esprit. Faisons très attention à ne pas devenir, comme ces religieux légalistes, du permis interdit. Qui consciemment ou inconsciemment, fabriquant des règles et des dogmes qui deviennent des traditions à travers les siècles. Et même si on ne retrouve pas de traces dans la Bible, elles deviennent aussi des pratiques, comme au niveau de la Bible. Et même si la Bible les contredit, les dénonce, on ne veut pas les abandonner parce que c'est devenu une habitude. Dogme, tradition, même en contradiction avec la parole de Dieu. Ces dogmes et ces traditions ont toutes les apparences du bien. Elles peuvent être bonnes dans les apparences, mais qui deviennent un poids, un obstacle à la communion et à l'amour vertical avec Dieu et horizontal entre frères et sœurs. Rappelons-nous que l'amour dont Dieu nous a aimés nous pousse à l'aimer et à aimer nos frères et nous donne ainsi l'assurance de notre salut. Il n'y a pas d'amour divin s'il n'y a pas d'amour du frère. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Si je découvre l'amour de Dieu, je ne peux qu'aimer. Je ne m'oblige même pas à aimer. J'aime tout simplement. Si je suis dans la situation où je dois m'obliger à aimer, là je dirais mettre à genoux, Seigneur, montre-moi ton amour, je ne le connais pas. Parce que si je découvre l'amour de Dieu, inconditionnel, personne ne peut donner cet amour. Je ne peux qu'aimer sans se forcer. Revenons à notre texte. Il y a tellement à dire, mais je partage avec vous ce qui m'a touché personnellement. Dans la synagogue de Capernaum, Jésus interrompt les lectures et les chants et la prédication pour mettre au centre la communion de la foi, pour mettre au centre quelqu'un. Vous vous rendez compte? Il est rentré, il a dit, oh, on arrête tout. Nos prédications, nos chants, tout ce que vous voulez. Il a tout arrêté. Il dit, non, il y a quelque chose de plus important. L'amour de l'autre. Il a tout interrompu. pour mettre une personne au centre. Une personne qui souffre. Une personne qui est dans l'épreuve. Un être vivant, tout simplement. Pas comme le politique désigne comme utile ou pas, chance ou pas, pas du tout. Dans son épreuve, cette personne est mise au centre des préoccupations du Seigneur. On a l'impression que le Seigneur dit, vous ne m'intéressez pas tous. Lui m'intéresse. Cette personne m'intéresse. C'est cette personne qui souffre. Petite remarque. La fréquentation d'une religion, d'une église ou d'un bâtiment, même avec l'assiduité, ne vaut rien si on n'a pas le regard fixé sur le Seigneur. Cette personne, peut-être, venait tous les samedis. Hein. Et le plus important, c'est que le Seigneur l'a désigné. Il a dit, toi, je te connais. Lève-toi. Ah, tu me connais, moi? Oui, toi, personnellement, je te connais. Non seulement je te connais, je connais ta souffrance. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Aucune menace n'empêche le rapprochement entre le Seigneur et la personne souffrante. Cette personne était peut-être mise de côté par les religieux, par les hommes de la loi. Peut-être il l'a réprimandé. Peut-être il dit, peut-être à cause de toi que tu es malade. L'accusé. Peut-être cette personne était mise de côté par sa propre famille. Mais cette personne était au centre pour le Seigneur Jésus. Après la mise en cause des disciples, rappelons-nous des passages avant, qui cueillaient les épis dans le champ, Jésus devient le centre de toutes les observations. Le reproche n'est pas de savoir si cueillir quelques épis relève d'une infraction envers le Shabbat. Ici, le péché attendu pourrait bien devenir plus manifeste. Guérir constitue un acte thérapeutique franc, direct. Jésus va-t-il travailler le jour sacré du Shabbat et par là ne pas respecter la loi divine? D'autant qu'il n'y a aucune urgence. La main desséchée de l'homme peut peut-être, bien entendu, attendre la fin du Shabbat au coucher du soleil. Il aurait pu attendre. On se souvient qu'il y a peu à la maison, juste avant, dans le chapitre 2, Jésus avait guéri un paralytique. Alors comment sera-t-il, en plus dans une synagogue, à faire la même chose, au risque d'être condamné à mort, d'après la loi? Vous observerez le Shabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. C'est la loi. Hein? Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. La loi condamne. Une fois de plus, Jésus connaissait la situation. Alors il anticipe et déplace le sujet. En le plaçant au milieu, Jésus fait de l'homme à la main desséchée le vrai cœur de la controverse. Au lieu de discuter théologie, dogme, on aime bien, hein, faire des conférences, des débats, il a emmené une personne. Il a emmené la centrer tout sur l'amour. Jésus montre la nécessité de porter l'attention, non sur la loi, non sur la théologie, même pas sur le guérisseur ou sur les miracles, mais sur celui qui souffre. Cette personne qui souffre, les pharisiens l'ont utilisé comme alibi pour tuer Jésus. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas du tout à sa souffrance. Ils voulaient rentrer dans les débats. Le Seigneur le ramène toujours à la personne qui souffre. Qu'en pensez-vous? Il a fait un autre déplacement, le Seigneur Jésus. Il concerne le débat. Il concerne l'objet du débat en lui-même. D'une part, Jésus ne désigne pas le Shabbat en termes d'interdit. Rappelons-nous. La loi, elle interdit. Mais comme par hasard, le Seigneur ne parle pas d'interdit. Il parle de permis. La loi, elle dit interdit. Moi, je dis le permis. Il y a toujours l'amour qui est là. Faire pour les autres est-il permis? Sa conception du Shabbat insiste sur son aspect positif. Elle privilégie d'abord ce qui est autorisé et n'enferme pas ce jour dans une liste d'interdictions. Ça, c'est la loi, c'est la religion. Il y a toujours l'amour. D'autre part, dans notre passage, il ne s'agit pas de guérir. Il n'utilise pas le mot guérir, le Seigneur. Je ne sais pas si je l'ai là. Il ne s'agit pas du mot guérir. Il utilise le mot sauver, le Seigneur. Il n'a pas dit je guéris, non, sauver. Au-delà, c'est-à-dire au-delà de la guérison, il parle du sauvetage, c'est-à-dire le salut. Pharisien au nom du juif, tout juif, sait qu'en cas de danger de mort, la loi du Shabbat, la loi, autorise à venir en aide à quelqu'un qui meurt, fort heureusement. Il suffit de lire Deutéronome chapitre 22, verset 4. Mais Jésus n'en reste pas là, à la lecture littéraliste, à la lecture de la loi. La Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le Seigneur va développer un sens spirituel des Écritures. Au sauvetage, dans le sens salut, est opposé le meurtre. Des fois, ce n'est pas synchro les passages. Il va utiliser carrément le meurtre. Ne pas sauver une vie pour respecter le Shabbat revient à la condamner à mort et enfreindre l'autre commandement dans le sens spirituel. Tu ne tueras point. Ne pas venir en aide à quelqu'un qui est en train de mourir, c'est que tu n'as pas respecté un autre commandement de la loi. Tu ne tueras point. Ne pas annoncer la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Maintenant, je fais exprès de poser cette question. Si je suis dans une situation où je dois témoigner de ma foi, d'annoncer la bonne nouvelle, et je ne le fais pas. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où je m'empêche d'annoncer la vie, comme je suis provocateur? Si je n'annonce pas la vie, ben je maintiens la personne dans la mort. Si je maintiens la personne dans la mort, je peux continuer le raisonnement. Le Seigneur est piquant. Il nous a ramenés dans un sens spirituel. Il a dit, je ne suis pas venu pour guérir physiquement seulement cette personne-là, mais pour la sauver. Parce qu'il utilise le verbe sauver. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on est dans un pays où nous ne risquons rien, où des fois le Seigneur nous emmène, nous met dans des situations où même on ne risque rien. Mais seulement témoigner de sa foi, et des fois on s'en empêche. Annoncer la bonne nouvelle, c'est faire du bien à l'autre. S'empêcher de faire le bien, annoncer la bonne nouvelle, revient, d'après ce passage, je le dis avec tremblement, à faire le mal. Surtout quand on est dans des situations qui l'exigent. Malgré l'adversité, les difficultés, les menaces de mort, le Seigneur a demandé à l'homme, avec la main atrophiée, de se tenir au milieu pour qu'il le guérisse. Et cette guérison était en même temps l'expression visible d'une réalité spirituelle invisible, celle de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, promenant le regard sur eux, un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main », il étendit sa main, et sa main devint normale. La colère de Jésus peut nous surprendre. Elle n'exprime pas ici un sentiment de haine. Elle émane de celui qui se déclare fils de l'homme, le juge des temps derniers. Son attitude est une attitude de sainte colère. Paradoxalement, ses cœurs sont tout aussi endurcis que celui de Pharaon. En lisant ce passage, j'ai retrouvé les mêmes expressions utilisées par Dieu quand il a parlé à Moïse, en s'adressant à Pharaon. Étends ta main. Jésus reprend les mêmes mots que l'ordre du Seigneur de Dieu a donné à Moïse. Plusieurs fois répété lors du combat contre Pharaon à l'occasion des 10 plaies. Ce n'est pas un hasard. Il y a comme un renversement de situation. Voilà ces pharisiens sont issus d'une libération où Dieu a utilisé sa puissance pour dire à Moïse, étends ta main pour les plaies, ouvrir la mer, et les a libérés. Voilà qu'ils deviennent des pharaons. C'est eux maintenant que le Seigneur est en train d'étendre la main, mais ils ne veulent pas. L'homme à la main sèche rejoint le peuple hébreu ayant besoin d'être délivré, sauvé et conduit vers la terre promise de l'Alliance. Alors ce n'est pas un guérisseur galiléen qui parle. C'est bien le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui a fait sortir son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus. N'est-ce pas là le sens même du Shabbat? Glorifier Dieu, Créateur et Sauveur. Il est très facile de tomber et devenir des pharaons. Le Seigneur étend toujours sa main à nous de savoir la saisir. Jésus savait bien que guérir cet homme lui causerait beaucoup de problèmes. Mais malgré cela, il l'a appelé pour le guérir. Et la réaction des Juifs ne s'est pas fait attendre. Pharisiens et Hérodiens se sont unis afin de faire périr Jésus. Ironie du récit, en choisissant de faire périr plutôt que de sauver en ce jour de Shabbat, le parti pieux des pharisiens se révèle être le vrai profanateur de la loi divine en cherchant à tuer quelqu'un le jour du Shabbat. De plus, entente entre qui? Entre pharisiens et hérodiens. Ils ont tout pour ne pas s'entendre, mais ils trouvent un terrain d'entente, celui de la haine de Jésus et de le tuer. Les hérodiens et les pharisiens n'avaient rien en commun, sauf le fait qu'ils étaient tous juifs. Les Hérodiens n'observaient pas la loi. Ils soutenaient la dynastie d'Hérode qui collaborait avec les Romains et favorisait la culture grecque. C'est pour tout cela que les pharisiens les considéraient comme immondes. Cet accord soudain entre deux semble insolite et pourtant ils se mettaient d'accord sur quoi? Sur la haine pour Jésus et cherchaient à le tuer. Mais cette union nous conduit à la fin d'une section où l'opposition contre le Seigneur est arrivée à un point culminant. Les pharisiens et les hérodiens représentaient le pouvoir religieux et politique qui s'unissait pour détruire Jésus et sa cause en Galilée. Malheureusement, ce n'était pas l'unique fois où la religion et l'État s'unissent pour persécuter les chrétiens et l'Église. Nous connaissons l'histoire. En conclusion, cette condamnation à mort du début du chapitre 3 vient au terme de 5 récits que nous avons lus dans le chapitre 1 et chapitre 2, mettant en scène Jésus et ses détracteurs. D'abord, il y a eu le pardon du paralytique. On lui a reproché comment Jésus dit au paralytique « Lève-toi et marche avant de le guérir ». Qu'est-ce qui est le plus important? On l'a attaqué là-dessus. Après, le repas avec les pécheurs, on lui a reproché. Après, la question du jeûne, lui ont dit les disciples des pharisiens, des gens jeûnaient, mais pas avec toi. Après, les débats sur les épis cueillis pendant le jour de Shabbat. Et là, on arrive au maximum. Ce maximum va le mener à la mort. Mais parallèlement, Jésus affirme avec toujours plus de vigueur son identité et son autorité. Plus il traverse les épreuves, plus il affirme son autorité. En tant que fils d'homme, en tant que fils de Dieu, en tant qu'époux de l'Église et en tant que Seigneur du Shabbat. Et malgré l'opposition maintenant orientée vers la mort, l'annonce du règne doit poursuivre son chemin jusqu'à cette Pâque promise où il va donner sa vie. À l'issue de cette épreuve salvatrice, le Père va le ressusciter et va le monter vers lui en attendant son retour, juger les morts et les vivants. En attendant, il demeure présent avec nous à travers son esprit. En attendant son retour, tenons ferme. Rappelons-nous que le Seigneur a payé le prix. Rappelons-nous qu'à traverser les épreuves. Et rappelons-nous, quand on est dans la pensée de Dieu, rien ne peut nous attaquer, sauf si c'est permis par Dieu. Ayons du courage et laissons l'Esprit Saint nous faire avancer dans la communion avec le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit sur notre Église, sur chacun de nous. Laissons le Seigneur nous faire vivre le message de la croix, dépouillement qui nous prépare pour la vie éternelle. N'ayons pas honte du Seigneur. N'ayons pas honte de notre Seigneur. Il a payé le prix. Souvent, on n'ose pas afficher que nous sommes chrétiens. Et bien, j'ai envie de terminer par ce passage. Dérangeant. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. En tant qu'Église, en tant que chrétien, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Cette lumière, on ne peut pas la cacher. Le Seigneur veut la montrer au monde. Pourquoi nous voulons la cacher? Si nos bouches se taisent, le témoignage de notre vie quotidienne doit exprimer notre foi chrétienne. Je n'ai pas besoin de parler, mais ma vie doit témoigner du Seigneur. Ayons confiance en notre Seigneur, annonçons la bonne nouvelle quand la situation le permet, et veillons à ce que nos paroles ne dépassent pas nos actes. Dans ce cas-là, c'est un jugement contre nous-mêmes. Marchons dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole, et non seulement nos vies se transformeront, mais aussi nos bouches témoigneront de notre communion avec le Seigneur et annonceront tout naturellement la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide. Amen.